Bienvenue sur l'émission Constellation, qui se propose d'explorer en votre compagnie les arcanes stellaires et diamantins où nous conduit la poésie de tout temps et de tout lieu. Aller à la rencontre du poète Tristan Corbière, d'une certaine façon, c'est prendre un risque. Sans doute, me direz-vous, aller à la rencontre de tout poète véritable pour susciter chez l'auditeur l'irrépressible désir d'écouter et de réécouter ses chants participe toujours d'une hardiesse non exempte de dangers et d'écueils. Pour ce qui est de Corbière, né le 18 juillet 1845 au manoir de Coat-Congar, commune de Plougean près de Morlaix, dans le Finistère, d'un père marin, romancier et journaliste, on a tôt fait d'entrer dans un labyrinthe ludique et irrévérencieux. Mais, on le verra, presque tous ses poèmes requièrent un apparat critique. Prénommé Édouard comme son père, à l'âge de 16 ans, il opte pour le prénom de Tristan, ce qui, dans une famille de marins, lui permet déjà le jeu de mots « triste en » Corbière, le mot de Corbière, son patronyme, signifiant en langage maritime un sentier de contrebande ou une bande d'extrême littoral. Par ailleurs, ses amis bretons le surnommeront Anne Ankou, le spectre de la mort. Et Tristan Corbière pâtissait en effet d'un physique plutôt désavantageux, ainsi décrit : grand, maigre, une barbe inculte en pointe, un nez énorme, accoutré bizarrement, tantôt en forçat, avec le bourgeron, c'est-à-dire une blouse d'ouvrier, le pantalon de toile et les sabots, tantôt avec les bottes de mer, montant jusqu'aux genoux et un feutre cabossé. Une huile sur toile non datée, autoportrait caricatural, représente le poète en effet dégingandé, chaussé de bottes de mer, arc-bouté, fumant une longue pipe fine, dont le foyer repose sur son genou gauche, avec l'inscription suivante en haut à droite, « Peut-être à peu près un artiste, peut-être un poète à peu près, s'amusant à prendre le frais au large de l'humaine piste. » Mais au-delà de ces caricatures, en lesquelles Corbière lui-même pouvait se complaire, le titre d'un des poèmes de son unique recueil « Les Amours jaunes », publié en 1873, fournit une ébauche de clé. Le titre de ce poème est « Le poète contumace », avec, pour première hémistiche, l'indication « Sur la côte d'Armor ». Alors, le poète contumace, on peut indiquer que, dans le vocabulaire juridique, le mot contumace se dit d'un accusé qui refuse de comparaître devant le tribunal, aussi dira-t-on jugé par contumace, du latin contumax, rebelle, opiniâtre. Métaphoriquement, chez Corbière, il renvoie à la fois à l'exclusion du poète, mais aussi à son refus de s'en remettre à un quelconque tribunal, très caractéristique du maudit. Quant à l'hémistiche sur la côte d'Armor, on notera d'emblée le mot valise que contient cette indication géographique. L'Armor n'est pas seulement la zone maritime de la Bretagne, c'est également, tout au long de ce poème, le lieu imaginaire de la rencontre entre l'art, la mort et l'amour. Alors, lisons pour comprendre la position de Corbière un premier poème intitulé « Le crapaud ». Un chant dans une nuit sans air, la lune plaque en métal clair les découpures du vert sombre. Un chant, comme un écho, tout vif, enterré là, sous le massif. Ça se tait. Viens, c'est là, dans l'ombre. Un crapaud ! Pourquoi cette peur près de moi, ton soldat fidèle ? Vois-le, poète tondu, sans aile, rossignol de la boue. Horreur ! Il chante. Horreur ! Horreur, pourquoi ? Vois-tu pas son œil de lumière ? Non. Il s'en va, froid, sous sa pierre. Bonsoir, ce crapaud-là, c'est moi. poème Le Crapaud, indiquons-le aussi, parodie celui que Hugo a inclus dans la légende des siècles. Indiquons aussi que, lisons aussi un extrait du poème qui porte le titre Le poète contumace, parce qu'il livre un autoportrait assez saisissant du poète artiste, faisant d'un à peu près d'artiste un philosophe d'à peu près, râleur de soleil ou de frais, en dehors de l'humaine piste. Il lui restait encore un hamac, une vielle, un barbet qui dormait sous le nom de Fidèle. Non moins fidèle était, triste et doux comme lui, un autre compagnon qui s'appelait l'ennui. Se mourant en sommeil, il se vivait en rêve. Son rêve était le flot qui montait sur la grève, le flot qui descendait. Quelquefois, vaguement, il se prenait à tendre. Attendre quoi ? Le flot monter, le flot descendre. Ou l'absente, qui sait ? Notons aussi que le sonnet Le Crapaud était un sonnet volontairement inversé, au sens où il présente les deux tercets avant les deux quatrains, comme pour présenter l'image iconoclaste du poète, vrai rossignol de la boue. Et en effet, Corbière n'a de cesse de présenter une antithèse entière et totale par rapport au romantique. Musset est d'ailleurs souvent sa bête noire, mais même par rapport à Charles Baudelaire, lorsqu'il propose la réécriture du poème que nous avions déjà lu quand il s'était agi de Charles Baudelaire, le poème intitulé « À une passante ». Et voici ce que Corbière en fait, en donnant cette fois pour titre, avec les jeux de mots qui l'accompagnent, le titre est « Bonne fortune » et fortune. Et c'est il y a une épigraphe qui indique odor de la feminita. Voici le poème. Moi, je fais mon trottoir quand la nature est belle pour la passante qui, d'un petit air vainqueur, voudra bien crocheter du bout de son ombrelle un clin de ma prunelle ou la peau de mon cœur. Et je me crois content, pas trop, mais il faut vivre. Pour promener un peu sa faim, le gueux s'enivre. Un beau jour, quel métier ! Je faisais comme ça ma croisière. Métier ! Enfin, elle passa. Elle qui ? La passante, elle, avec son ombrelle. Vrai valet de bourreau, je la frôlais, mais elle me regarda tout bas, souriant en dessous, et me tendit sa main et m'a donné deux sous. Localisation est toujours indiquée ou souvent indiquée à la fin des poèmes de Corbière. Et là, il indique rue des Martyrs. Et il faut savoir que c'est une rue du 9e arrondissement de Paris qui mène à Montmartre et qui était à l'époque un quartier de prostitution. Thank you. crispé comme un extravagant, écrivait Baudelaire dans son poème « À une passante ». Extravagant et néanmoins à l'opposé de tout dandysme, Tristan Corbière le fut sans conteste. On note, il se déguise en évêque pour aller au bourdeau, c'est-à-dire au bordel, en femme pour se faire photographier, où se promènent les épaules couvertes d'un drap de lit, coiffé d'un bonnet rouge, les jambes enchaînées. Voici voici le fou, disent les filles, voilà la mort, an ankou, disent les marins. Son unique recueil de poèmes, Les Amours jaunes, devait comporter 101 poèmes. L'édition de poche Garnier-Flammarion en compte en réalité 94, mais n'était-ce pas là encore un clin d'œil vers les fleurs du mal, dont l'édition antérieure au procès et à la censure devait rassembler 100 poèmes très exactement. Les Amours jaunes se composent de 7 sections, encadrées au début comme à la fin de 2 poèmes qui pastichent la cigale et la fourmi de La Fontaine. Une section préface, intitulée de manière très originale et presque pré-psychanalytique « Ça », puis 6 autres divisions, « Les Amours jaunes », « Sérénade des sérénades », « Racro », « Armor », « Jean de mer » et « Rondelle pour après ». Sachant que Corbière peignait, dessinait, gravait notamment des caricatures des communards, dont une série s'intitulera « Le peuple souverain », retenons à présent 2 des poèmes de la section « Armor », en rappelant que ce titre « Armor », dénomination celtique de la bordure maritime de la Bretagne, par opposition à l'Argoate, le pays des bois. On peut ajouter que cette section indique que l'amateur de pittoresque n'y trouvera pas les beautés d'un soleil couchant sur les grèves ou d'un horizon infini, pas davantage les éblouissements de l'écume et les roulements de la tempête. Cette Bretagne-là ne vaut que comme repoussoir, dépliant antitouristique, pacte définitif avec la sauvagerie. À peine est-elle compréhensible et Tristan ne tente nullement de l'apprivoiser, mais la facture de ses vers, le coupant de son expression, l'air qui traverse sa trachée, coïncide pour une fois, pour cette fois, avec les éléments bruts ou hardiment sculptés qui font la réalité armoricaine. Alors, lisons pour illustrer ce jugement qui était un jugement de Steinmetz, le critique littéraire dont nous avions déjà parlé à propos d'autres poètes. Lisons 2 poèmes de cette section Armor. Le premier, Paysage mauvais, et le second, Nature morte. Mais avant de les lire, je suis contraint, comme je l'avais dit en préambule, de donner quelques indications de vocabulaire qui sont fournies par le glossaire qui figure à la fin du recueil. Par exemple, le mot palu signifie marais, le mot follet désigne un lutin malicieux, le lièvre, dans le folklore breton, est une créature du diable, et le soleil des loups est une périphrase pour désigner la lune. Dans le second poème, qui évoquera la brouette de la mort, on peut rappeler que dans les légendes bretonnes, la figuration de la mort, l'ankou, se fait avec cette brouette et son cortège d'oiseaux funèbres. Paysage mauvais, sable de vieux os, le flot râle des glas, crevant bruit sur bruit, palu pâle, où la lune avale de gros vers pour passer la nuit, calme de peste, où la fièvre cuit, le follet damné languit, herbe puante où le lièvre est un sorcier poltron qui fuit. La lavandière blanche étale des trépassés le linge sale au soleil des loups. Les crapauds, petits chantres mélancoliques, empoisonnent de leurs coliques les champignons, leurs escabeaux. Et le poème se termine par la notation topographique « Marais de Guérande, avril ». Et le second poème, intitulé « Nature morte », des coucous, l'angélus funèbre a fait sursauter à ténèbres le coucou, pendule du vieux, et le chat-huant, sentinelle, dans sa carcasse à la chandelle qui flamboie à travers ses yeux. Écoute, se terre la chouette. Un cri de bois, c'est la brouette de la mort le long du chemin. Et, d'un vol joyeux, la corneille fait le tour du toit où l'on veille le défunt qui s'en va demain. Indication topographique, Bretagne, avril. On a dit que l'édition de poche Garnier Flammarion proposait un petit glossaire pour servir à l'intelligence des amours jaunes. Glossaire riche d'archaïsmes, de termes liés au langage des marins ou encore de termes argotiques ou régionaux. Le breton, la langue bretonne, y trouve une place de choix. Par exemple, le scabellon tonsegad, c'est l'escabeau de crapaud, à savoir un champignon. Le soleil des loups, on l'a vu, désignait la lune, mais on trouve aussi des expressions comme « mettre Jésus dans la crèche », ce qui désigne de façon imagée et savoureuse l'acte sexuel. Bref, toute une moisson de termes savoureux, on pourrait encore citer le « ferreur de cigale », celui, ce qui signifie quelqu'un qui accomplit un travail inutile, le fou de Pampelune, qui désigne un personnage fantasque, ou encore le substantif grippe-jésus, le mot composé grippe-jésus qui désigne un gendarme, ou encore, enfin, l'adjectif brandezing qui désigne quelqu'un en proie à l'ivresse. Pour terminer ce parcours, Tristan Corbière, et pour mieux saisir à quel point il est, comme il le dit lui-même, un décrocheur d'étoiles et un peigneur de comètes, lisons deux poèmes qui se trouvent à la toute fin de son recueil. Tout d'abord, le poème intitulé « Sonnet posthume » et enfin le poème intitulé « Petit mort pour rire ». Sonnet posthume, dors, ce lit est le tien, tu n'iras plus au nôtre. Qui d'ordine, à tes dents viendra tout seul le foin. Dors, on t'aimera bien, l'aimer c'est toujours l'autre. Rêve, la plus aimée est toujours la plus loin. Dors, on t'appellera beau décrocheur d'étoiles, chevaucheur de rayons, quand il fera bien noir. Et l'ange du plafond, maigre araignée, au soir, espoir, sur ton front vide, ira filer ses toiles. Muselleur de voilette, un baiser sous le voile t'attend, on ne sait où, ferme les yeux pour voir. Ris, les premiers honneurs t'attendent sous le poil. On cassera ton nez d'un bon coup d'encensoir, doux fumet pour la trogne en fleurs, pleine de moelle d'un sacristain très bien avec son éteignoir. Notons que le mot « poil » requiert que l'on consulte le glossaire dont j'ai parlé, et le mot « poil », dans le vocabulaire religieux, dans la religion catholique, c'est un drap funéraire dont on recouvre le cercueil durant la cérémonie mortuaire. Indiquons aussi que dans le poème, il y a, on l'aura noté, une inversion de l'expression « derniers honneurs » qui devient « premiers honneurs ». Ceux, précisément, les derniers honneurs qui sont rendus au moment des funérailles. Et enfin, lisons le poème intitulé « Petit mort pour rire ». On remarque le calembour, évidemment, sur le mot « mort », puisque on pourrait aussi comprendre « petit mot pour rire », mais c'est bien « petit mort pour rire » qui sert de titre à ce poème. « Va vite, léger peigneur de comètes, les herbes au vent seront tes cheveux. De ton œil béant jailliront les feux follets, prisonniers dans les pauvres têtes. Les fleurs de tombeau qu'on nomme amourettes foisonneront plein ton rire terreux. Et les myosotis, ces fleurs d'oubliettes. Ne fais pas le lourd, cercueil de poète, pour les croque-morts sont de simples jeux. Boîtes à violon qui sonnent le creux. Ils te croiront mort. Les bourgeois sont bêtes. Va vite, léger, peigneur de comètes. Vous avez pu entendre les musiques suivantes. D'abord, la suite opus 14 de Béla Bartok, dont vous aurez entendu trois mouvements. D'abord, l'allegretto, puis le scherzo, et enfin, l'allegro molto. Les trois morceaux étaient interprétés par le pianiste hongrois, qui est mort relativement récemment, en 2016, le grand pianiste hongrois Zoltán Kocsis. Et vous avez pu entendre aussi un morceau chanté en breton de Gortoz Aran, du chanteur Dénès Prigent. Cette émission hebdomadaire est diffusée en direct les mardis de 10h à 10h30 et rediffusée les vendredis de 13h30 à 14h. Vous pouvez aussi l'écouter, la réécouter en podcast, comme toutes les autres émissions des RLP.